se voir. On se reparle dans quelques instants, Boulevard. Le retour de... Vous êtes à Boulevard 102, c'est le retour de Boulevard. Je suis encore à dire un gros merci à l'équipe de Club Jouet. Je pense à Ginny qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui certainement est derrière ça avec Alex. Évidemment, Alex Richard qui est notre collaborateur depuis quelques années maintenant. Je m'y attendais vraiment pas. Merci à Anto et Max aussi, qui m'ont comme dit hier, ce matin, « Hey, on a déplacé la chronique à demain. » Je ne comprenais pas en tout pourquoi il fallait faire la chronique absolument aujourd'hui. Maintenant, je saisis.
Je les aurais pris ces cadeaux-là, mais ça aurait dormi dans mon garde-robe
ça
une couple d'années.
Ça t'aurait pas servi, là. Hein? Non, je suis comme super touchée de ces affaires-là. Puis c'est drôle, là, tu sais, il y a des types de personnalités qui sont faites pour recevoir des surprises, je pense, qui aiment ça, qui grattent pas. Pour moi, d'habitude, je gratte pour savoir. J'aime savoir tout. Fait que là, on dirait que je suis surprise. C'est définitivement gagné. Puis c'est très, très apprécié. Donc, clubjouet.com, c'est vrai qu'ils ont plein de belles affaires pour les bébés, les enfants, jeune âge aussi. Puis évidemment, ça va jusqu'à adulte, vous comprendrez. Fait qu'un gros merci encore à la gang de Club Jouet. Il est 16h06. Faut faire des nouvelles, nous autres. Peut-être juste avant, saluer ceux et celles qui viennent de se joindre à nous à Boulevard. Je m'appelle Audrey Pinchot. Je vous accompagne jusqu'à 18h avec Antonine Iacarini, Max Larouche, que vous venez d'entendre aussi, qui est autour de la table. C'est la dernière de cette formation. La semaine prochaine, Max sera à l'animation avec Anto, qui bouge pas, notre pilier de l'été. Et Mathias, qui va être là également, question de vous accompagner. Et le retour de Boulevard 101, Gravel en retour. Donc, on prend place à partir du 3 août, Denis Puvéro qui vont revenir de vacances. On va se retrouver, notre petit brunch annuel, avant de venir vous jaser en après-midi. J'ai l'impression qu'on a bien des trucs à vous compter. Et à ce qu'on parce que c'est un été qui a passé super vite, puis on s'est texté, mais on n'a pas eu le temps de se voir encore, tu sais. Puis je sais que Denis a un gros été derrière la cravate, donc d'après moi, les anecdotes se sont accumulées. Et la programmation complète, elle, sera de retour le 10 août prochain. Vous voulez nous rejoindre? 88-971-1021 texto, téléphone, bien, vous ne vous gênez pas, 88-780-1021. Il y a le Messenger de Boulevard par lequel vous pouvez nous rejoindre aussi. On est pas mal sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Et citoyen commercial blvd.fm, si vous voulez rejoindre notre journaliste terrain, Mathias Turcotte. 21 degrés présentement à l'extérieur ressenti. On est autour de 23. Ce sera dégagé ce soir et cette nuit avec un 12 degrés. C'est plus frais un peu, hein? Demain, 25. On a des petites possibilités d'averse, 30 %. Vraiment, on va être correct, là. 15 en soirée, quelques nuages. Samedi, dimanche, on est dans les 28-29. Gros soleil. Lundi, c'est ce qui est prévu aussi. Techniquement, des possibilités de pluie à partir de mardi, mais on traversera le pont rendu à Rivière, comme Max dirait.
Merci.
Oh boy! Dans la circulation, il y a encore des problèmes. Tantôt, on vous parlait de ce véhicule en feu, là. Je vais faire une petite mise à jour, voir si ça a bougé, mais ça avait quand même fermé certains tronçons. On nous avait avertis au 971-1021. Dans la dernière mise à jour, bon, voyez-vous, ça semble terminé. Donc, c'était sur Duplessis, hauteur chemin Sainte-Foy, là. On avait tout bloqué parce qu'il y avait un accident et véhicule en feu.
Fait que là, il y en a qui ne pouvaient pas traverser le pont rendu au fleuve parce qu'ils ne se rendaient pas au fleuve parce que c'était bloqué.
C'était ça
l'enjeu.
Oui, fait que ça ne marchait pas dans ce cas-là, vois-tu. Mais là, ça commence à se dégager tranquillement, pas vite. Et il y a encore quelques problèmes sur Duplessis Sud à partir de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée des ponts. Henri IV Sud, ça se passe de Wilfrid Hamel au pont, sur le pont, dans les deux directions. Difficile en ce moment. Sinon, c'est la capitale direction est à la hauteur de Robert-Bourassa. Charest est aussi hauteur Robert-Bourassa. Capitale ouest, c'est hauteur Laurentienne. Et sur la rive sud, c'est la 20 ouest entre la route du président Kennedy et Taignata. Max, dans l'actualité, ça a-tu bougé un peu?
Bien, il y a une histoire qui fait beaucoup jaser, puis je vais faire appel à votre mémoire un petit peu. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Luciano Fratolin et de sa fille Mélina Fratolin, la fillette qui avait été portée disparue pendant quelques heures et éventuellement, ben c'est le père, Luciano Fratolin, qu'on avait arrêté dans cette histoire-là, qui s'est passé dans l'État de New York. Mais pourquoi on en parle beaucoup au Québec? Ben c'est que c'est du monde de Montréal. Et c'est une histoire qui, honnêtement, probablement un jour fera une série Netflix, là. C'est le père lui-même, Luciano Fratolin, qui a appelé les autorités pour dire que lors d'un arrêt pipi sur la route de retour de voyage, sa fille avait été enlevée. Et quelques heures plus tard, ben on l'a retrouvée noyée. Et là, ben les enquêtes, l'enquête a permis de mettre cet homme-là en arrestation. Et là, ben on est dans le procès de tout ça. En fait, ça commençait littéralement ce matin, le procès. Donc, on avait la grande thèse de la couronne, la grande thèse de la défense. Je veux dire un petit peu qu'est-ce qu'on dit qui s'est passé des deux côtés. Du côté de la couronne, ben on dit c'est le père qui a bel et bien tué sa fille. Du côté du père, lui, il maintient vraiment sa version des faits, à l'effet qu'il est coupable de rien, que lui s'était arrêté pour un arrêt pipi sur la route et la petite a été enlevée. Sauf que là, ce qui laisse des doutes aux yeux de la couronne, c'est que semble-t-il que le papa change comme sa version des faits à toutes les fois. Il y a des petits trucs qui changent dans sa version à toutes les fois qu'on lui pose des questions. Pis... Fait que bref, c'est le début du procès. On va suivre ça de près là, dans les prochains jours, la prochaine semaine. Sinon, ce qui fait jaser en politique, j'allais dire fédéral, mais en fait, c'est provincial et fédéral là, parce que Mark Carney rejoignait aujourd'hui les premiers ministres provinciaux au Conseil de la Fédération du côté de Charlottetown. Il y a un communiqué conjoint qui a été envoyé hier par les différents premiers ministres des provinces, puis c'était assez clair que ce qu'on allait mettre de l'avant aujourd'hui dans les discussions, ben c'était les nouveaux tarifs américains. On veut avoir le plan d'Ottawa du côté des provinces. Aujourd'hui, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Christine Fréchette qui expliquait qu'elle allait rencontrer Mark Carney en privé, qu'elle allait avoir trois demandes claires pour lui pour défendre les intérêts du Québec, de ses travailleurs, de ses entreprises et de son économie. Et tantôt, il y avait comme un gros point de presse là où on nous faisait état de ce qui s'était dit aujourd'hui. Puis, ben honnêtement, ça semble pas ça être dit grand-chose là à suivre dans les d'ici la fin du show. Est-ce qu'on va avoir des grosses citations choc de quelqu'un? Mais à date, ça a l'air très, très, très mollo. D'accord, dans tout ça, les États-Unis qui doivent bientôt annoncer de nouveaux droits de douane qui pourraient encore une fois toucher le Canada. Là, on parle des fameux tarifs de Trump là, qu'il veut imposer aux pays qui importent des biens issus du travail forcé. Fait qu'exemple, des biens qui sont faits par des enfants en Chine ou qui sont issus de l'esclavage. Fait que j'imagine que les États-Unis là-dessus sont vraiment blancs comme neige puis ont rien à se reprocher parce que c'est 45 pays qui se verraient imposer une surtaxe de 12,5% à cause de ça et d'autres comme le Canada ben, se verraient imposer une taxe de 10%. Il faut maintenant être client du Château Frontenac pour avoir droit à une visite guidée de l'endroit historique. En entrevue avec Radio-Canada, Sabrina Coutu, qui est une porte-parole du Fairmount, le Château Frontenac, explique que des plaintes ont été reçues en raison de l'achalandage accru dans l'hôtel et que des décisions nécessaires ont dû être prises. Mentionne là, que les clients à l'hôtel, c'est des invités qui sont luxe, qui payent un prix luxe. Donc, ils s'attendent à recevoir un service qui est à la hauteur du prix qui payent pour venir au Château Frontenac, s'attendent à avoir une tranquillité d'esprit quand ils viennent. Donc, on a décidé au fur et à mesure, au fil des années, des mois, de prendre des décisions qui font en sorte que les clients vont avoir le meilleur service possible au Château Frontenac. Les édifices gouvernementaux du Québec mettront leur drapeau en berne ce samedi en mémoire de Marc Messier qui nous a quittés le 7 juillet dernier. Le registre de condoléances publiques a d'ailleurs été mis en ligne dans les dernières heures. Les Québécois qui sont invités à déposer un message à Marc Messier ou un témoignage en guise d'un dernier au revoir. Les témoignages qui seront transmis à la famille. Et je termine avec ça pour mettre la table à Antonine Iacarini. La députée sortante des Chutes de la Chaudière, Martine Miron, se présentera à nouveau pour la CAQ cet automne, mais dans son annonce, elle dit solliciter la confiance des citoyens au sein de l'équipe de Christine Fréchette. Il n'y a pas mention de la CAQ, il n'y a pas mention de la Coalition Avenir Québec, on parle vraiment de l'équipe de Christine Fréchette. C'est quelque chose dont on s'était déjà parlé, et là, on a comme un autre indice que la commande est assez claire là, de parler de Christine Fréchette beaucoup plus que de la CAQ, que de la Coalition Avenir Québec. Donc, Martine Biron qui écrit « Grâce à notre travail d'équipe, nous avons atteint plusieurs objectifs pour l'avancement de notre région. Il nous reste encore tant de choses à réaliser. » Un peu dans le même sens là, du travail qui reste à faire, elle dit « J'ai fait le saut en politique il y a 4 ans alors que je constatais que les droits des femmes étaient en net notre recul dans plusieurs de nos démocraties. Nous avons fait beaucoup pour protéger les droits des femmes au Québec. Il faut maintenant poursuivre le travail. Et termine en disant que notre chef Christine Fréchette réunit autour d'elle une équipe d'hommes et de femmes d'envergure qui ont de l'ambition pour le Québec. Mentionne que le Québec a besoin d'une vision économique et sociale forte, plus de compétences et moins de calculs politiques. C'est ce qu'offre l'équipe de Christine Fréchette. On dirait quelqu'un qui parle d'un gouvernement qui n'est pas là depuis 8 ans.
Exact.
On pensait pas qu'elle quittait, elle.
Ben, honnêtement, là, le fait que l'annonce ait lieu le 23 juillet, je pense que ça en dit beaucoup sur les hésitations. Je pense que l'équipe autour de Christine Fréchette a travaillé très fort pour convaincre Martine Biron de rester. Puis s'arrêter, tu sais, c'est pas que c'est catastrophique individuellement, chaque ministre qui ne se représente pas. C'est vraiment l'accumulation. Puis là, le fait qu'on est rendu très, très proche du déclenchement de la campagne électorale et que, tu sais, on a vu François Bonnardel il y a quelques jours, ça fait mal. Tu essaies de te donner un élan, puis là, il y a quelqu'un qui part, puis là, ça permet à toutes les télés de remettre le tableau avec tous les ministres qui ont décidé de s'en aller.
Mais là, ça donne pas l'impression que c'est un peu à contre-cœur, mettons, puis qu'on l'a un peu forcé à rester?
Ben, oui. Moi, je pense que si elle était hyper motivée, elle aurait probablement annoncé, mettons, au mois d'avril-mai.
Plutôt,
une
hein,
fois
oui.
que Madame Fréchette est devenue chef. Mais bon, moi, je m'interroge vraiment, puis je veux votre avis. Est-ce que, tu sais, nous, on suit les nouvelles à tous les jours. Moi, je suis la politique à toutes les minutes et à toutes les secondes. Max, tu es très politisé aussi. Est-ce que les gens qui suivent moins ça tout le temps peuvent répondre positivement au repositionnement marketing de la CAQ, c'est-à-dire maintenant, c'est équipe Fréchette, on ne parle plus de la CAQ? T'sais, nous, on trouve ça un peu ridicule parce qu'on est comme, ben voyons, on le sait bien que c'est la CAQ, mais il faut se rappeler que c'est pas tout le monde qui écoute la télé, la radio à tous les jours, qui regarde
les bulletins
nouvelles.
Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que ça peut marcher.
Ben oui.
Honnêtement.
On sait au Québec qu'on a tendance à avoir la mémoire peut-être un petit peu courte.
Ben voyons, il est écrit « Je me souviens » sur nos plaques de char.
C'est la seule place où ça paraît.
Mais non, je pense que oui, parce que justement, je suis pas la plus politisée de nous trois. Là. Je veux dire, je suis la politique pour l'actualité.
Oui,
mais encore là, je suis quand même un cœur à prendre facilement. Puis je veux dire, je vois ça aller, puis je regarde les réactions autour de moi. Puis moi, j'ai l'impression que ça peut totalement fonctionner.
Ouais.
Parce qu'à la limite, ça donne l'impression que tu essaies au moins de rediriger la CAQ, de montrer qu'on s'en va ailleurs, puis on n'est pas la même formation.
Ben, c'est un bon point que tu dis, parce que ça démontre un peu...
Un effort.
En fait, ça démontre que tu comprends que ça ne pourra pas être ça, l'offre politique qui est présentée aux Québécois. Donc, on veut tirer un trait sur l'époque de François Legault. C'est bien ingrat, là, parce que Mme Fréchette, si elle est là, c'est grâce à François Legault, c'est sûr. Mais les cycles politiques étant ce qu'ils sont, M. Legault, en ce moment, est une personnalité politique usée. Moi, je pense, puis à chaque fois que je dis ça, les gens ils trouvent que j'exagère, mais je pense que M. Legault, s'il joue bien ses cartes dans les prochaines années, comme Mme Marois, on l'a vu cette semaine et dans les dernières semaines faire des sorties sur l'itinérance notamment. Mmh. Et moi, là, Mme Marois, là, même quand elle était première ministre, elle n'a jamais été populaire, déjà à la base. T'sais, M. Legault a été très, très populaire à une certaine époque. La chute a été brutale.
Brutal, tu dis.
Madame Marois, c'était autre chose. Et maintenant, regardez comment les gens la respectent beaucoup. Elle fait des sorties qui sont très calculées. Elle n'est pas tout le temps dans l'espace public. Elle ne critique pas son ancienne formation politique comme des anciens chefs péquistes. Si François Legault joue bien ses cartes aussi, moi, je pense qu'il peut être un des anciens premiers ministres qui est très apprécié par les Québécois, mais il faut qu'il nous laisse du temps.
Oui, il faut qu'il nous laisse tranquille un peu. Je pense que les gens qui sont encore traumatisés de bien des affaires, c'est plate
exact.
À dire, mais au-delà de tout puis au-delà de ce qu'il a pu faire dans ses mandats, M. Legault, il est associé beaucoup à une période qu'on n'a pas particulièrement appréciée. Hein. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas non plus,
mais
j'ai l'impression,
mais pour mais en
certains.
Même temps, c'est ce qui l'a rendu le plus populaire
aussi.
De l'histoire pendant
oui.
un bout.
Mais ça, on a besoin que ça devienne un souvenir lointain
c'est
pour être capable de penser positif sur cette époque-là.
Un peu, là. Ouais.
Exact.
Pour prendre un certain recul... un autre parti politique qui a des défis?
Ça va pas bien, les libéraux!
Ah, moi, je m'en remets pas de ce qu'on a vécu
Pauvre
hier.
Charles!
Là. C'est...
Je trouve ça triste parce que Charles Milliard est un homme très appréciable.
Ben oui.
C'est un gars
c'est
qui est
bien,
smart.
Là,
c'est quelqu'un qui... Oui! C'est pas pour rien qu'il est à la tête, tu sais, mais il est où?
Bon, OK. plusieurs choses ici. D'abord, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit retour sur ce qui s'est passé hier, effectivement. Là, Max, tu dis que... Ben, c'est parce que au fur et à mesure des heures de la journée, puis tu sais, on a une émission de radio qui dure 4 heures, donc souvent, l'actualité, elle évolue au fil du temps. Et hier, on voyait ce candidat, Michel Savard, dans une circonscription montréalaise, celle de Gouin, qui avait des propos par le passé là, qui refaisaient surface. Et il avait notamment traité PSPP et ses suiveux, en gros, de nazis.
Oui, hein? ça ressemblait beaucoup à ça.
Je résume, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Et ça, c'était pas suffisant pour l'enlever de l'équipe de candidats.
Ça passait. Pour le Parti libéral du Québec, Michel Savard est traité par le passé, Paul Saint-Pierre Plamondon et les gens qui le suivent, de nazis sans envergure, me semble-t-il.
Sans envergure.
Ça, pour le Parti libéral,
des gros propos,
ça passe.
Mais un peu plus tard dans la journée, bon, il y a d'autres citations qui refaisaient surface. Et bon, il y avait des citations spéciales là, sur de la guerre civile, batte de baseball. C'était des
Vous venez débattre avec mon batte de baseball, exact. De quoi de même. Là.
Donc là, ça en était trop. Et Charles Milliard, le Parti libéral, là, qui ont décidé de flocher leur candidat. Donc, moi, je trouve que ça met un peu la barre pour la campagne électorale, parce que s'il y a d'autres candidats dont des propos ressortent, des propos du passé au présent, ça va être bien difficile pour le Parti libéral de critiquer ou de poser un jugement sur des propos. En tout cas, si c'est nazi, c'est correct. C'est ça que j'ai compris.
Oui, ça, traiter les adversaires politiques de nazis, ça passe, mais pas de les inviter à débattre avec son bat de baseball. La ligne, elle est là.
C'est ça. Ce matin, nouveau chapitre là, de l'histoire, en fait, de... Malheureusement, pour le Parti libéral, à chaque fois qu'il y a un article de journal ou un reportage ou une intervention à la radio qui met dans la même phrase le nom du parti et l'UPAC, c'est sûr que ça fait bobo. Là, c'est cette histoire qui est sortie par Québécois, une femme qui aurait voulu être candidate pour la présente élection, Sonia Beaudeloup, qui a été exclue de l'équipe de candidats du Parti libéral à cause du passé de son conjoint. Son conjoint qui aurait été interpellé en 2004 pendant une rafle policière en lien avec le crime organisé. Et là, ça pose toutes sortes de questions. Évidemment, est-ce que vous devez être pénalisé pour ce que votre conjoint a fait il y a 20 ans? C'est pas évident. Par contre, le Parti libéral, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? On se rappelle Paul Saint-Pierre Plamondon dans le point de presse de fin de session à l'Assemblée nationale, quand il faisait le bilan de la session parlementaire, a fait des liens entre le Parti libéral et le crime organisé.
Il a posé des questions.
Je le sais pas. On appelle ça, mettre le pied sur la ligne. Puis ça avait bien choqué beaucoup de gens.
C'est comme il y en a qui pensent que pour dire ce que toi tu penses, mais pas t'associer.
Moi, je fais ça des fois. Moi, certains diraient que.
Certains oseraient
bon,
dire.
C'est moi qui pense ça.
Certains oserait dire ça.
Donc, PSPP qui avait fait un lien entre le Parti libéral et le crime organisé. Et ça avait fait beaucoup de vagues. C'est sûr que là, tu te lèves le matin puis tu vois des articles dans le journal qui disent qu'une de tes candidates a un lien avec le crime organisé. Je pense qu'ils veulent plus du tout prendre aucun risque et ne laisser place à aucune zone grise.
Ouais, mais tu sais, tu devrais pas écoper, à mon sens, pour quelqu'un d'autre. Ben j'ai comme de la misère avec ça. Là.
Ben c'est ça. Puis là, ce qu'on apprend là, sous la plume des journalistes de Québécois, c'est qu'une proche de Charles Milliard aurait contacté Sonia Beaudeloup pour lui dire que l'UPAC l'aurait mis en garde contre elle. Donc, l'UPAC a dit à Charles de faire attention à toi et à ton entourage. Bon, là, c'est des gens qui rapportent des... Là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui dit que, puis qu'on ne sait pas c'est qui, là. Elle aurait une mauvaise réputation, entre guillemets. Et là, la situation dans laquelle le Parti libéral se trouve présentement, qui est sous enquête hein, de l'UPAC, il faut le rappeler, ont décidé de ne pas prendre de chance. Malheureusement, en prenant pas de chance, ben là, ils ont un article de journal parce que la fille est pas contente. Fait que là, elle sort dans les médias pour s'en plaindre. Le résultat est un peu
ben,
le même.
C'est ça, je la comprends un peu de pas être contente, là, en même
Surtout
temps.
Surtout qu'elle est très impliquée au Parti libéral depuis de nombreuses années. Elle a été candidate en 2022 dans la circonscription de Fabre à Laval. Et elle s'est même impliquée dans la campagne de chefferie de Charles Milliard. Elle a organisé notamment des événements de financement.
Moi, je serais en maudit contre mon chum aussi.
Ouais.
Ça ne doit pas être beau à ma maison.
Tu vois-tu ce que tu fais à ma carrière politique? Mais bon, tout ça pour dire que pour le Parti libéral, cette espèce de boulet éthique à chaque fois que le mot UPAC est parti libéral, c'est difficile pour eux.
Tu parles de boulet. On peut-tu parler de la campagne, de la nouvelle pub, en fait, qui est comme un couteau suisse à double tranchant? Là. J'ai envie de vous la j'ai envie de vous la faire entendre.
Charles, on n'a pas été bien loin, on court ensemble tantôt.
Je suis là. Go.
Excusez-moi, avez-vous vu Charles?
Je suis là.
Pardon? Il est où, Charles?
On jasait là deux minutes. Il y jase encore. Je suis là.
Et je vais être encore plus là pour le Québec.
Fait qu'on veut montrer qu'il est proche du monde, genre?
Mais ça fait aussi « Où est Charlie? » et on ne le trouve pas.
Premièrement, c'est bien correct là, comme campagne de publicité. C'est dur d'être original en politique et d'atteindre la cible parce que c'est très rapidement un peu cringe pour parler comme Ariane.
On voit qu'il n'arrive pas à faire des bonnes. Celle que j'ai trouvée bonne, c'est celle du sandwich. Là.
Oui, mais c'était pas le chef lui-même qui essayait d'être cool. C'était des comédiens et tout ça. Je le trouve que cette pub-là est correcte. Okay. C'est juste que, comme vous disiez, on peut un petit peu la revirer contre lui. C'est sûr que, tu sais, par exemple, s'il arrive une nouvelle, un événement d'actualité et que le chef du Parti libéral décide de ne pas réagir, mettons, là, évidemment, on va faire des jokes. On va dire « Où est Charles? Où est Charles? » C'est bon, ça risque de revenir.
D'après moi, ils ont pensé, puis c'est un pari qui était prêt à prendre.
Évidemment, là, d'habitude, on fait un brainstorm puis on se dit, ce serait quoi les risques et les opportunités d'une telle campagne de pub. Mais il y a aussi qu'on en sait encore très peu sur les propositions du Parti libéral et de Charles Milliard. T'sais, le Parti libéral a eu pendant longtemps un chef intérimaire, pendant la dernière législature, Marc Tanguay, qui n'avait pas la latitude de prendre des positionnements très forts. Et cet intérim-là arrivait après avoir eu deux chefs très différents. Philippe Couillard, plus à droite un peu, après une Dominique Anglade, plus à gauche. Et là, tu as un intérim pendant des années. Donc, le positionnement du parti est particulièrement pas clair. Nouveau chef qui arrive, Pablo Rodriguez, pas le temps de nous dire c'était quoi son positionnement. Je sais pas s'il l'aurait fait éventuellement.
Hey, ça a été rough, les dernières années, mine de rien.
Ouais, effectivement. Et là, nouveau chef, Charles Milliard, qui arrive assez tard, en année électorale, et qui a proposé des choses. Mais moi, j'aime bien regarder les réactions à certaines choses. Il y a des nouveaux tarifs de Donald Trump. On va voir les réactions des différents politiciens sur la question. Beaucoup de tarte aux pommes avec Charles Milliard. Donc, il faut, tu sais, c'est des grandes pensées, des beaux sentiments. Mais concrètement, c'est quoi les mesures? C'est pas toujours facile. Je vois certains de ces candidats qui sont plus précis. Tu sais, par exemple, dans le cas des tarifs, je trouvais que la réaction de Charles Milliard, c'était « Je suis pour la tarte aux pommes, mais je vais mettre plus de pommes dans la tarte aux pommes. » Tu sais, ça ressemblait un peu à ça, comment c'était
un
peu vite.
Mais ça peut être une stratégie. Puis là, je fais un drôle de comparatif, là, mais au municipal, quand il y a eu la course, Sam Ahmad tardait énormément à faire des annonces, puis il sortait pour dire qu'il allait y avoir des annonces, mais c'était comme sa stratégie d'attendre le plus dernière minute possible parce que dans sa tête, à en faire trop d'avance.
Le risque, c'est que tu laisses les autres te définir beaucoup. La seule annonce vraiment précise que Charles Milliard a fait, c'est sur la langue française. Il semblait être piqué au vif de se faire attaquer là-dessus, mais c'est pas son terrain de prédilection. J'allais dire, tu sais, oui, des fois, il est un peu général dans ses idées. C'est-à-dire que Julie White, qui est sa candidate dans Jean Talon, qui est l'ancienne porte-parole des manufacturiers exportateurs du Québec, a fait des vidéos puis des publications dans lesquelles elle est beaucoup plus précise sur ce qu'il faut faire face aux tarifs de Trump.
On en jasera.
La force de l'équipe. maintenant, effectivement, pour Charles Milliard, je trouve que cette pub-là, « Où est Charles? » j'ai envie de dire « Où sont les propositions concrètes? » C'est un petit peu la faiblesse là, en ce moment.
Tu parles de Julie White. Je vais vous faire entendre un extrait. On est un peu dans se servir de Trump pour gagner des votes. Je vous fais entendre ce qu'elle a publié sur ses médias sociaux.
On annonçait hier des nouveaux tarifs sur les produits canadiens. Mais est-ce que c'est vraiment le temps pendant ce temps-là de parler d'indépendance? Je suis sur la rue Mégoire aujourd'hui, puis ça me fait penser au commerce, aux entreprises, à vous qui allez vivre les impacts de ces tarifs-là. C'est pas ça la priorité des Québécois. On n'a pas besoin de plus de divisions et d'incertitudes. Et c'est pas vrai qu'on peut rien faire au Québec pour faire face aux tarifs. On peut faire plein de choses en contrôlant notre environnement d'affaires, en baissant les impôts des entreprises, en ayant une réelle stratégie manufacturière, en s'assurant que le Québec achète ses propres produits. Ce que les gens qui prônent la division ne comprennent pas, c'est qu'économiquement, on est mieux de travailler ensemble, on est plus fort ensemble. Et ça, nous, on le comprend au Parti libéral du Québec.
Bon,
donc, Trump a annoncé hier...
Il y a aussi Farnell là, qui a fait une
vidéo.
Ah oui, là.
Absolument.
Voulez-vous l'entendre? Je l'ai pas loin, si vous voulez l'entendre.
Ah oui, donc.
Il est rendu là.
Attends. Passer des nouveaux tarifs de 50 % sur plusieurs biens canadiens, dont, pour la première fois, des biens qui sont protégés par des accords de libre-échange avec les États-Unis.
Une des principales conséquences des tarifs de Trump, c'est la baisse de nos exportations. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, c'est simple. Moins d'exportations, c'est moins de ventes. Moins de ventes, c'est moins d'investissements. Après ça, c'est toute une cascade qui s'ensuit.
Au Parti libéral du Québec, c'est d'une importance capitale que le cœur de notre économie.
Vous voyez le genre.
On comprend la ligne de parti, là, mais mon Dieu, que c'est original, hein? C'est innovant.
La peur, hein? Oh. La peur du référendum.
Non, mais
l'épouvantail.
Pour vrai, là, tu sais, on le sait que, mettons, Mark Carney s'est servi allègrement de Donald Trump pour se faire élire.
Ben oui.
Tu sais, on l'a bien compris, là. Mais là, c'est comme un degré supplémentaire. Tu sais.
Ça m'énerve un peu, moi, ça.
En plus, c'est que.
Ça me brûle.
Moi, je veux aller sur le fond des choses un peu. Je comprends que, à première vue, tu peux dire être divisé. C'est sûr que c'est pas un avantage face à Trump. Mais je pense que la plupart des gens comprennent que même notre appartenance au Canada en ce moment ne garantit pas qu'on va avoir une excellente entente de libre-échange, qu'il n'y aura pas de tarifs. Je trouve que c'est prendre le monde pour des cons.
Puis surtout en sachant que Carney va devoir sacrifier...
quelque chose.
Quelque chose, et donc sacrifier probablement une ou des provinces, et donc ça pourrait être le Québec qui finit par être sacrifié dans un certain sens.
Donc il faut maintenir la pression, mais ça c'est sur
mais
le
c'est
fond
habile
des choses.
Pour jouer. T'sais, en même temps, ouais. C'est ça qui me fait
c'est
rire.
Facile.
C'est bien dit.
Plus facile qu'habile
plus
pour moi.
Plus facile qu'habile, t'as
c'est
raison.
Les vieux livres de jeux libéraux.
Mais
de...
ça va marcher avec
oui,
certaines
je sais,
personnes.
Je sais.
Ça va fonctionner.
Mais moi, je pense qu'avec certaines personnes, ça va marcher. Mais avec d'autres, ça va les fâcher de se faire sortir cet argument-là. Puis même des nationalistes qui ne sont pas nécessairement des souverainistes enragés vont se dire hey, là, non. Ah, c'est ça, c'est vrai, c'est ça les libéraux.
Ouais.
J'avais oublié, puis je me demandais si ça allait être différent avec Charles Billard. Puis finalement, c'est pas différent. Donc, tu sais, honnêtement, mettons Julie White dans Jean Talon. Je pense que ça peut marcher dans Jean Talon, ce genre de discours-là, avec une certaine clientèle. Mais Farnell, Morissette dans Taschereau, là, pas certaine que c'est winner. Mais bon.
Ça fait toujours spécial pour moi, Farnell, qui est
ben oui.
collaborateur chez nous,
puis,
vulgarisateur
puis,
d'actualité.
Je précise, je déclare mon conflit d'intérêt aussi avec Julie Watt, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé.
Ouais.
Mais à un moment donné, on peut apprécier les personnes...
mais
être en désaccord
mais business
avec
business is business, exactement.
Ben oui.
Puis le personnel, c'est le personnel. Vous êtes à Boulevard 102. Merci, Anto. Dans les prochaines minutes, on rejoint notre collaboratrice Elisabeth Crête, qui est journaliste, animatrice, vulgarisatrice d'actualité. On va parler des nouveaux emballages sur les paquets de cigarettes avec des images assez choquantes. Question de vous dissuader d'en acheter. Ça fonctionne-tu vraiment, ça? On va parler aussi à quoi ça ressemble dans d'autres pays que le nôtre. Le retour. 16h37 minutes à Boulevard 102.1, le retour de Boulevard. On est ensemble jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot. Vous avez entendu Antonin Iaccarini, Max Larouche également qui sont là. Ce sera d'ailleurs votre équipe de la semaine prochaine. Mathias va s'y joindre. Je tombe en vacances à partir de 18h. Pas que je suis contente, là. Plein d'affaires à faire pendant la semaine de vacances. Des affaires pas. Je me dis, tu peux quand même dormir le matin puis pas te soucier
c'est
du
vrai.
Travail. T'sais, on va le prendre. De retour le 3 août pour Gravel dans le retour. Programmation régulière qui reprend le 10 août prochain. Peut-être vous rappeler qu'il y a quelques problèmes de circulation. Capitale Est, auteur Robert Bourassa. Si vous êtes sur Charest Est entre Duplessis et Henri IV, c'est encore un peu au ralenti aussi. Henri IV, d'ailleurs, dans les deux directions, là, je vous dirais, entre Chemin Sainte-Foy et les ponts, on sent quand même un bon ralentissement. Pour la 73 Nord, ça commence à ralentir, je vous dirais, juste avant la 20, jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Parlant de la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. S'il y a autre chose, vous ne vous gênez pas, c'est le 88-971-1021 texto. Il y a déjà des gens qui commencent à réagir au 971-1021 concernant tout ce qui est cigarettes, emballages, des gens qui ont travaillé justement dans des dépanneurs, les réactions des gens face à ça. Je sais que vous en avez glissé un mot, Max, hier quand c'est sorti. Il faut savoir que d'ici le 1er août, vous allez voir des nouveaux emballages sur les paquets de cigarettes avec des nouvelles images choquantes pour vous dissuader d'en acheter. On a eu les trous dans la gorge, les langues dégueulasses. Je veux dire, on on en a déjà beaucoup. Je sais pas à quel point ça, tu sais, je sais pas à quel point réellement les gens vont cesser d'acheter des paquets de cigarettes juste à cause des images. Je sais pas à quel point ça fonctionne, mais c'est quand même une question qu'on va se poser. Est-ce qu'on en fait assez au Québec pour la lutte au tabac? On va jaser avec Élisabeth Craig, qui est journaliste, animatrice et vulgarisatrice d'actualité. Salut, Élie.
Bonjour à vous tous.
Ça va bien?
Ça va bien, vous aussi?
Yes, ça va super bien. Donc, est-ce qu'on en fait assez au Québec pour la lutte au tabac? Ton two cents là-dessus, ce serait quoi?
Bien, en fait, c'est documenté que non, on en fait... Ben, en fait, est-ce qu'on en fait pas assez? On en fait beaucoup moins qu'ailleurs dans le monde et qu'ailleurs au Canada, ça, c'est sûr. Et juste pour vous résumer un peu, les nouvelles images pour les fumeurs qui nous écoutent, là, que oui. Vous allez voir sur les paquets de cigarettes à compter du mois d'août, vous allez voir, entre autres, des photos de bébés emboucanés, par exemple.
Ça me rend mal à l'aise.
Ouais, moi aussi, j'aime moins ça, mais en même temps, c'est vrai pareil. Un bébé peut être exposé à la fumée. Vous allez voir aussi une photo de bol de toilette dans laquelle on retrouve de l'urine et du sang. Alors, c'est vraiment une photo d'urine ensanglantée. Et moi, celle qui m'écœure le plus, pour vrai, qui aurait le plus d'impact pour moi, c'est tu vois la photo d'un monsieur qui manque une partie de la bouche. Parce qu'on dit que le tabac peut causer le cancer de la bouche. Et si vous l'avez, on peut vous faire retirer une partie de la mâchoire, de la langue, puis de la bouche. Et écoute, c'est vraiment, tu vois, un monsieur qui manque la moitié de la bouche, c'est traumatisant. C'est moi, pour moi, c'est celle-là qui est la plus intense. Là.
Mais autant ça m'écœure. Oui. Autant ça m'écœure, autant je me dis, si je suis un fumeur, ou que ce soit occasionnel ou tout le temps, ou on dirait que c'est pas ça qui... Regarde, je vais regarder un peu ailleurs quand j'ouvre ma boîte, puis on dirait que ça me fera pas arrêter ou moins fumer.
Bien, c'est sûr que c'est, tu sais, ceux qui fument, c'est très difficile d'arrêter de fumer. En demandant à n'importe qui a essayé d'arrêter, c'est probablement une des dépendances qui est extrêmement difficile. Mais est-ce qu'on en fait assez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dissuader, justement, les gens de fumer? Bon, d'abord, la loi actuelle au Québec, si je résume, c'est interdit de fumer dans certains lieux publics. Les saveurs de vapotage sont interdites. Mm-hmm. Et il y a environ 60 % du prix du carton de cigarette que c'est des taxes. La taxe québécoise, il faut savoir que c'est la plus faible au pays. Les autres provinces ont une taxe sur le tabac beaucoup plus élevée que nous autres. Et dans d'autres pays, le pourcentage de taxes sur le prix du paquet de cigarettes, ça peut aller jusqu'à plus de 80 % Alors ici, à 60 % on n'est pas fort fort là-dessus. Mais pour comparer les efforts du Québec et du Canada par rapport aux autres pays dans la lutte au tabac, l'OMS utilise un programme qui s'appelle M-Power. Et ça, c'est un paquet de politiques anti-tabac qui ont été démontrées comme étant très efficaces par l'OMS. Et l'OMS va un peu évaluer les pays selon leur adhésion à cette fameuse à ce fameux programme M-Power.
C'est quoi, maintenant?
Donc, il y a 6 composantes. Je vais vous résumer ça, là. Il y a 6 composantes à ce fameux programme-là. Le M, c'est pour monitor, donc surveiller. Surveiller la consommation de tabac, exiger des enquêtes régulières qui sont représentatives autant chez les adultes que chez les jeunes. Après ça, le P, c'est protéger la population contre la fumée de tabac, donc des lois 100% sans fumée dans les lieux publics et à l'intérieur aussi. Le O, c'est offrir de l'aide pour arrêter de fumer. Avoir des programmes de cessation, des lignes d'aide, des thérapies de remplacement qui sont efficaces et qui sont agressives. Le W, c'est warn, avertir des dangers du tabac, donc avec des avertissements graphiques comme ce que vous voyez déjà sur les paquets de cigarettes, des campagnes massives et tout ça. Le E, c'est enforce, faire respecter l'interdiction de publicité, promotion et commandite. Ça veut dire aussi sur Internet. Parce qu'il y a bien des pays qui vont dire on l'interdit déjà dans les médias traditionnels, mais ils ne sont pas tout à fait capables de réglementer l'Internet. Là. Et le R, c'est raise taxes, augmenter les taxes sur les produits du tabac. Et ça, c'est la mesure la plus efficace selon l'OMS, mais la moins utilisée aussi. Par contre, il y a des pays qui l'utilisent, et ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Il y a des pays qui adhèrent à 100 % au M-Power selon l'OMS. Donc, leur approche, elle est parfaite sur les 6 points. On parle du Brésil, des Pays-Bas et de la Turquie, par exemple. C'est des pays qui sont presque parfaits, c'est-à-dire qu'il en manque juste un sur les 6. Et le Canada n'en fait pas partie. On parle de l'Irlande, Mexique, Nouvelle-Zélande et tout ça. Le Canada n'a pas. Ah non, on n'est pas bon, nous autres. On n'est vraiment pas bon. On n'a pas les 6 mesures M-Power au niveau maximal. On est très fort, par contre, au Canada, sur les avertissements graphiques, sur l'interdiction de publicité et sur la surveillance. Par contre, l'OMS considère qu'on n'est pas fort sur les taxes, par exemple, qui est la mesure la plus efficace. On n'est vraiment pas bon, là, surtout. Au Canada, on n'est pas bon, pas encore moins au Québec. Et aussi sur offrir de l'aide, le fameux O, là, l'aide à la cessation. Ça, on n'est pas assez fort non plus.
Le pire, c'est que j'allais te le demander, puis le demander aux auditeurs au 971-1021, tu sais, avez-vous déjà demandé de l'aide pour ça? Parce que j'ai l'impression que ceux qui arrêtent de fumer ont le réflexe de... faire un peu tout seul, de développer des trucs, de prendre des patchs, de se trouver des alternatives, de prendre la vape au lieu de la cigarette. Mais moi, j'ai jamais entendu personne autour de moi faire affaire avec un programme pour cesser de fumer. Là.
Qui est spécifique spécifique pour cesser de fumer. Il doit y avoir des programmes de dépendance là, qui existent, on en connaît plein, mais qui sont spécifiques au tabac. Ça, visiblement, si on en a, ben, ils sont pas assez efficaces. Là, ça, c'est clair. Mmh. Alors, faut savoir que le Québec est pas évalué individuellement parce qu'on n'est pas un pays. Hein. Fait qu'on fait partie du Canada, fait que c'est le Canada qui est évalué. Mais on peut vous dire qu'au Québec, on est moins fort qu'au Canada sur certains points.
Pourquoi, à ton avis, Elisabeth, on ne taxe pas davantage? Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait qu'à chaque fois que les taxes ont augmenté puis les paquets de cigarettes ont augmenté de prix, la contrebande aussi a augmenté? C'est peut-être une problématique qui est plus spécifique
chez nous. À une certaine époque, c'était peut-être vrai, là, Antonine, mais aujourd'hui, le pourcentage de fumeurs est quand même assez bas. Puis moi, j'ai de la misère à croire que ces gens-là vont vraiment se tourner vers la contrebande pour vraiment avoir leur paquet de cigarettes. Sincèrement, là, puis les pays qui l'ont fait augmenter les taxes, ça n'a pas nécessairement eu d'impact non plus sur la contrebande parce qu'il y avait aussi des règlements extrêmement sévère sur la contrebande. Alors, c'est sûr qu'il faut que ce soit un tout, là. Mais moi, je trouve que c'est l'excuse un peu facile du gouvernement de dire ça. Mais dans les faits, on sait que c'est très payant, le tabac et les taxes, là, tu sais. Fait que je suis pas certaine, là. Je sais pas par rapport à ça. J'ai un doute aujourd'hui, en 2026, parce qu'il y a beaucoup moins de fumeurs qu'il n'a déjà eu à une certaine époque.
Tu sais, je regarde les chiffres, là, puis autant au Québec qu'au Canada, on est autour de 12 % de fumeurs, 14 % pour les hommes, 10 % pour les femmes, de ce qu'on dit, là, puis la moyenne.
C'est vraiment moins qu'avant. Là.
Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais, je doute.
À 30 ans, là, tu sais.
Ah, ça, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on n'est plus. J'ai pas l'impression que c'est les images qui aident depuis des années, plus que peut-être le discours de santé, la mode de santé aussi beaucoup chez les jeunes. Tu sais, les jeunes actuellement prennent vraiment pas tant d'alcool. La mode est au mocktail. Tu sais, ce sont pas de grands fumeurs nécessairement non plus, du moins qu'avant de ce qu'on observe selon les statistiques. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que c'est plus comme une vague de mode santé qui nous aide en ce moment. Mais tu sais, tout ce qui est image, comme la nouvelle qui est tombée hier, moi je me dis, on s'adapte mal. Au Québec, au Canada, dans la mesure où on est tellement rendu, immunisé aux images qui sont plutôt difficiles à voir, ou tu sais, avec les séries qu'on a, tout ce qui est graphique aujourd'hui, les images de meurtres qui nous passent d'en face sur Twitter quand il arrive une tragédie, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui nous impressionne à l'œil, là.
Hey, t'as raison, mais moi, je te dis, la photo du cancer de la bouche, ça
t'écœure.
Ça fesse.
Mais tu fumes pas.
Non, je fume pas. Mais si je fumais, ce serait, ou si je consommais, tu me dis, mettons qu'aujourd'hui, je consomme un produit qui augmente de façon incroyable mes chances d'avoir le cancer de la bouche puis d'avoir l'air de ça, je peux te dire que ça a un impact.
Ouais,
c'est fou, moi, quand même. Ah oui. Ah non, c'est vraiment quelque chose. Allez voir, là, l'image du monsieur. Mais ça, c'est moi. C'est peut-être qu'effectivement, c'est pas le cas de tout le monde.
88-971-1021. Je suis vraiment curieuse de vous lire, les fumeurs.
Mais les images et les avertissements graphiques ont été démontrés, par contre, selon l'OMS, comme étant une mesure qui était quand même assez efficace.
Okay.
Évidemment, de savoir à quel point celle-là a eu un impact sur la baisse. T'sais, moi, je pense que c'est surtout l'exposition au tabac qui a fait en sorte qu'il y en a moins. T'sais, avant, tes parents fumaient dans la maison, toi, tu fumais aussi dans la maison, tu sortais au centre d'achat, tout le monde fumait. Là, le fait qu'on a réglementé les endroits où tu peux fumer, ben, ça fait en sorte que les nouvelles générations sont très peu exposées aux fumeurs, finalement. Ouais. Fait que ça te donne moins envie là, de commencer à en consommer tant qu'à moi. Puis il y a des pays qui sont très, très bons là-dedans, qui ont des mesures que nous, on pourrait peut-être avoir. Entre autres, en Australie, les taxes sont extrêmement élevées. C'est le paquet parmi les plus chers au monde. Et il y a aussi des restrictions très fortes sur le vapotage. Ça prend une prescription médicale pour avoir de la nicotine dans ta vapoteuse. Imagine-toi.
Oh,
ouais, aux Pays-Bas, ils ont un programme de réduction progressive des points de vente. Ça veut dire que d'ici 2030, il va y avoir très, très peu d'endroits où tu vas pouvoir acheter tes cigarettes. Au fur et à mesure, on enlève des endroits qui ont le droit d'en vendre, finalement. Fait qu'on complique la vie aux fumeurs pour pouvoir s'en procurer. En Turquie, eux autres, ils ont des avertissements sur les paquets de cigarettes qui couvrent 92,5% du paquet. Ici, au Canada, c'est 75%. Fait que l'image du cancer de la bouche, là, ça va être gros en maudit, là. C'est 92% de ton paquet, là, qui va avoir l'air de ça. Au Brésil, ils ont des programmes massifs de cessation, justement. Ils accompagnent les fumeurs pour essayer de sortir de cette dépendance-là. Mais dans les Maldives, ça, c'est la mesure qui est la plus radicale au monde, mais qui est ma préférée, c'est la génération sans tabac. C'est interdit de vendre, d'acheter ou d'utiliser tout produit de tabac pour toute personne qui est née après 2007. Aujourd'hui, moi, je ferais quelque chose comme ça ici au Québec et au Canada. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est né, par exemple, en 2008, aujourd'hui, ait le droit encore de se procurer des produits de tabac. Moi, j'interdirais la vente à partir d'une certaine année. C'est ce qu'ils font là-bas. Ça a été démontré quand même là, comme étant assez efficace jusqu'à maintenant. Et ils ont aussi interdit totalement les cigarettes électroniques. Tu n'as pas le droit d'en importer, d'en vendre ou d'en utiliser. Alors, est-ce qu'on est assez sévère au Québec? Moi, je pense pas. Il faut savoir que le tabagisme, c'est encore la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. C'est aussi un coût immense sur notre système de santé. Puis je sais que c'est controversé, là, parce que moi, je dis, j'interdirais ça de bout en bout, du jour au lendemain. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et un des arguments qui sort tout le temps, c'est oui, mais la malbouffe, puis les chips, puis si ça, ça aussi, c'est un coût pour le système de santé. Oui, mais le lien il est beaucoup moins direct que le tabac. Quand on dit le tabac, c'est la principale cause évitable de maladie puis de décès. C'est écrit nulle part qu'un sac de Doritos par semaine, ça va causer un cancer, là. Tu comprends?
Oui.
C'est facile de réglementer le tabac. La science, elle est là. C'est facile de l'interdire aussi parce que la jeune génération ne fume plus. De toute façon, on n'en consomme à peu près pas. Fait qu'interdisez-le pour tout le monde qui est né après 2008, par exemple. Puis il me semble qu'on n'en entend plus parler, c'est terminé.
Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau des cigarettes, je regarde autour de moi, tu sais, je suis mi-vingtaine puis un peu plus jeune, puis du monde qui sortait aux pauses à l'école pour se fumer des clopes, ça existe pas. Mais tout le monde fume la cigarette électronique, la vape, même dans l'école, parce que c'est le genre d'affaire que tu peux faire de façon subtile. Puis fait que pour moi, il va avoir beaucoup d'adaptations à faire à ce niveau-là aussi, parce que s'attaquer à la cigarette, parfait, c'est une chose, c'est une génération plus âgée. Bientôt, c'est relatif, mais ces gens-là seront même plus avec nous. Alors que les effets néfastes des vapes, moi, je pense qu'on n'est même pas au début de ce qu'on va finir par savoir comme effet néfaste de ces produits-là. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre beaucoup d'énergie là.
Absolument. Puis on pourrait aussi décider qu'on interdit totalement les cigarettes électroniques comme ils l'ont fait aux Maldives. Là. Je veux dire, c'est agressif. Peut-être que ça va déranger certaines personnes qui consomment ça de façon régulière, c'est sûr. On peut mettre en place aussi des programmes d'accompagnement. On peut même mettre une année aussi. Là. Bon, parce que ceux qui sont nés après 2007, ils peuvent pas acheter de cigarettes électroniques. On peut s'adapter, là, c'est correct. Mais il faut qu'on soit plus agressif. Là. Je trouve que 12%, c'est vraiment de fumeurs au Canada. C'est vraiment moins qu'il y a 30 ans, mais c'est toujours bien une personne sur 10. Là.
C'est encore
aller
trop,
dans un
party,
là, il y a quand même une personne sur 10 autour de vous qui fume encore, malgré tout ce qu'on sait.
Puis là, tu n'as peut-être pas la réponse, Elisabeth, mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi on n'est pas plus agressif? Sais-tu que c'est juste pas dans nos priorités?
Certains diraient que c'est parce que c'est payant pour le gouvernement quand même, parce qu'il s'en va encore, puis c'est des taxes, là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est une des raisons. Après ça, l'autre argument, c'est de dire, ce n'est pas le seul produit qui est mauvais pour la santé. On va pas commencer à tout réglementer. Puis je comprends le principe, mais c'est un des seuls produits pour qui le lien est aussi clair que ça. C'est clair, le tabac mène à toutes sortes de maladies, beaucoup plus qu'un Big Mac par semaine. Mmh. C'est ça la vérité aussi. Puis je comprends que c'est difficile de tout réglementer, ce qui est pas bon pour la santé, puis c'est pas ça le but non plus. Mais est-ce qu'on peut contrôler? On peut-tu le contrôler? Pourquoi on s'empêcherait de le faire, tu sais? Mais c'est très politique tout ça, là. Puis il y a plein de débats qui ont été faits là-dessus. Moi, mon plan, il est clairement exprimé, là. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Puis les fumeurs qui nous écoutent vont probablement dire, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, si vous êtes pas touché parce que vous êtes né avant 2008, êtes-vous d'accord à ce moment-là, t'sais?
Non, c'est ça. Pour vos enfants, mettons, là, tu sais, pour la suite, là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, que c'est facile de se dire, ben oui, enlève tout ça, tu sais, si on fume pas. Mais je veux vous entendre, ceux qui fument soit la vapoteuse, soit la cigarette, peu importe, au 88-971-102, je suis curieuse de vous lire parce que dans ma tête, il n'y a pas de bonne raison de faire autrement. Mais encore là, je suis du même avis que toi, moi, Elisabeth, je comprends pas ça parce que j'en ai pas. Je ne vapote pas, je ne fume pas. C'est pas quelque chose à quoi je suis addict non plus ou de quoi j'ai besoin. Mais je suis quand même curieuse. Puis c'est parce que ça coûte cher. Tu sais, je pense, il y a la santé, mais il y a le porte-monnaie aussi, là. Tu sais, on passe son temps à se promener puis à dire que hey, on manque de sous en ce moment au Québec, c'est difficile, le visage de la pauvreté a changé. Mais tu sais, je veux dire, le paquet de cigarettes à 15$, si t'en fumes un par jour, c'est parce qu'il y a une bonne partie de ta paye qui y passe, là.
Non, c'est sûr, là, ça a un impact financier sur les gens, comme toute dépendance aussi, hein, c'est un gros impact financier sur les gens. Fait qu'on pourrait s'améliorer au niveau des programmes d'accompagnement, au niveau des taxes qu'on met sur le paquet de cigarettes, mais moi, j'irais encore plus agressif, interdit à tous ceux qui sont nés après 2008. Merci, bonsoir.
Pas ça, pas à tout... Merci, bonsoir. Elle est partie. Elisabeth Kreit, journaliste, animatrice, vulgarisatrice, pardon, d'actualité. Hey, on s'en reparle bientôt, Elisabeth.
Salut, bye-bye.
Salut, merci. Je trouve ça super intéressant, honnêtement. Puis évidemment, il y a des textos qui font réagir. Tu sais, Camille a dit à propos de la vape, moi, ce qui me fait capoter, c'est que ceux qui vapent les jettent un peu partout. Ramasser des botches de cigarettes sur le bord de la rue, c'est quelque chose, mais ramasser des restants de vapoteuses partout, c'est fou. On fait attention à notre environnement, mais pas avec les vapes. J'en ramasse minimum 4-5 sur le bord de mon terrain en campagne par semaine, et ce, depuis un an, sans oublier la quantité massive de nicotine que les jeunes ingèrent à tous les jours avec les vapes et sans s'en rendre compte. Tu peux pas savoir la quantité que tu prends comparé à une cigarette, mettons. C'est plus flou avec les vapes, puis ça, c'est vrai. Puis on est un peu con. Au Festival d'été de Québec, pendant la soirée, de Soulja, ça fume en tabarnouche.
Ben oui.
Puis tu sais, moi, j'étais comme pognée dans ce nuage-là, ne fumant pas. Puis tu sais, c'est sûr que c'était plus agréable de respirer la vapoteuse aux fraises
ben oui.
que de respirer l'odeur
c'est
de cigarette.
C'est pas rendu interdit, ça?
Théoriquement,
les gens trouvent moyen, on va être honnête.
De ce que j'entends autour de moi, là, c'est encore très, très, très facile à se procurer.
Okay. Ah, puis pour n'importe quelle tranche d'âge, là.
Puis en passant, le commentaire sur les cochonneries de déchets, de vape qui traînent partout, les botches de cigarettes, c'est pas biodégradable non plus. Hein. Fait que,
non.
On est pogné avec le même problème depuis des années. On a juste remplacé la sorte de déchets, mais c'est dégueulasse.
Ça m'énerve, moi, ça. Puis le monde qui jette leur botche de cigarettes partout. Tu sais, sur le gazon à moitié écrasé, puis le feu est encore pogné dedans. Là. De la misère avec ça, vraiment. Mais c'est facile à dire, j'imagine, quand tu fumes pas, t'en ressens pas le besoin. J'imagine que les fumeurs auront
fumeurs
des choses à dire.
Ils pitchent pas leur botch par terre nécessairement. Mais tu sais, moi, ce que je retiens de la discussion avec Elisabeth, c'est qu'il faut miser sur l'avenir. C'est sûr que culpabiliser les gens qui fument déjà... Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années. Ceux qui fument encore, c'est probablement qu'ils ont bien de la misère à arrêter de fumer.
Sûrement.
Ça, puis comme je dis, c'est des gens qui seront plus là pour plusieurs plus tôt que tard.
Bon, fait. Oui. Désolé pour ceux qui nous écoutent.
Non, mais... je comprends ce que tu veux dire par le max. Puis comme n'importe quelle règle drastique qu'on impose, comme n'importe quel gros changement, il y a une génération, mais même pas des gens test qui vont être bien, bien fâchés. Mais la suite, ça va être une normalité. Prends un banal,
absolument,
comme on a parlé cette semaine, des téléphones à l'école. Puis,
tu sais, ça fait pas longtemps.
La crise aura duré.
Mais quand ils ont
interdit
les cigarettes dans les bars et les restos, là, les amis, là. Les gens pensaient que les villes seraient à feu et à sang après ça, puis qu'il y aurait des bars clandestins partout. La question de la contrebande, je pense qu'elle est quand même importante au Québec, là, parce qu'on a quand même, tu sais, c'est pas tous les pays qui ont, disons, des endroits où les lois ne s'appliquent pas de la même manière partout sur le territoire. Évidemment que ça existe, là, la contrebande. Puis moi, je me rappelle...
On a de l'expertise au Québec.
On a une certaine expertise. Et moi, je me rappelle d'une époque où ils ont beaucoup augmenté les taxes sur les paquets de cigarettes dans les années 90. Hey, moi, là, j'envoyais du monde avec leurs ziplocs remplis de cigarettes. Tout à coup, là, il y a eu un boost, là, vraiment, de contrebande. Maintenant, c'est vrai que tu rends ça plus compliqué. T'sais, c'est plus complexe que d'aller au dépanneur à côté de chez vous.
Ben oui.
Donc, nécessairement, plus tu mets d'obstacles, c'est sûr que ça a un impact.
Bien, définitivement, ça aide. Moi, l'augmentation des taxes sur le paquet, je trouve pas ça compantoute. Éric dit, totalement d'accord, il dit, je suis fumeur, je fais de l'emphysème pulmonaire léger, mais difficile à arrêter. Je fume depuis l'âge de 13 ans. Maintenant, j'ai 59. Fait que ça fait beaucoup d'années. À l'époque, c'était comme ça pour faire partie de la gang. C'est fou, tu sais.
Tout le monde fumait.
Mais oui. Puis tu sais, bon, je sais pas s'il serait d'accord que je raconte ça, mais moi, j'ai un membre dans ma famille, en fait, moi qui s'est à fumer à cause de la gang de gars au Saguenay vers l'âge de 6 ans. Tu sais, 6 ans.
Vers l'âge de 6 ans.
Pense à ça. 6 ans, tu te caches dans une ruelle parce que tu as des amis plus vieux de 10 ans.
Ma mère, c'était pareil.
En mais
ma
oui,
mère,
mais...
elle fume encore. Elle a commencé à fumer dans sa tendre enfance.
Bien, puis cette personne-là a arrêté aux alentours de 40 ans. Mais tu sais, quand ça fait partie de tes habitudes, c'est le même depuis toujours, tu te dis. Bon, ça ou mal manger, il y a des gens justement qui font le transfert.
Ils essaient de rationaliser le tout,
ben,
mais
oui.
C'est surtout que c'est une dépendance qui est vraiment, vraiment difficile à lâcher.
Absolument. Fait que je pense que, à mon
sens...
Faut
pas commencer, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les jeunes.
Ouais, oui, puis à mon sens, je veux dire, ça a beau te choquer ben raide, du coup, si ça peut t'aider en bout de ligne, puis te sauver une couple d'années, je sais pas. Moi, je vois ça quand même très, très positif, là. Mais c'est vrai que ça fâche des fumeurs. Hey, dans les prochains instants, j'avais quand même hâte à cette discussion-là, je le cacherai pas. On va parler avec Samuel Garand, qui est ingénieur chimiste et fondateur de Mousse, qui est une entreprise québécoise. On va parler d'odeur corporelle. Je sais que ça a l'air champ gauche bien raide, puis que ça a comme pas rapport qu'on sorte ça, mais j'ai reçu un courriel cette semaine, puis ça m'a vraiment fait sourire. La fille me disait, écoute, on sort du festival, il y en a d'autres qui s'en viennent, puis tu sais, quand t'es dans des foules...
Il fait chaud.
Il fait chaud. Les odeurs corporelles peuvent prendre la place.
Puis quand t'es dehors, mettons, c'est une chose au festival. Et que ça,
encore mettons les... là, Max.
Oui, encore là, en effet.
Encore là.
Mais dans les navettes là, du RTC, mettons, là,
oh, c'est épouvantable.
Si t'as le malheur de te retrouver à côté de la mauvaise personne.
Puis, je pense être tolérante à... Bon, c'est pas vrai, je suis quand même une personne qui est très intolérante facilement, là. Mais je pense être patiente par rapport à quelques trucs dans la vie, tu sais. Mais moi, le swing, l'odeur du swing, je peux pas... Je le goûte.
Ouais.
Je peux pas l'expliquer comment ça
me
met en... ça envahit.
C'est une micro-agression.
C'est épouvantable. Puis on s'est retrouvés, Max et moi, j'arrête pas d'en parler, on dirait ce temps-ci, là, au Festivois de Trois-Rivières il y a quelques semaines.
Ça passe des choses à Trois-Rivières.
Ouais, c'est, et on s'est ramassés dans la foule devant une gang qui tripait bien raide du Papa Roach. Puis le gars, ben je veux dire, il levait beaucoup les bras.
T'es content, il levait les bras dans les airs.
Tu sais, moi, j'avais pas, mettons, l'alcool pour m'aider à penser à autre chose. C'est plate à dire, je veux pas dire que l'alcool sert, mais...
Puis on sent plus les odeurs enceintes aussi.
Ah, Seigneur Dieu, que le nez vient fin, c'est épouvantable. Le cœur te lève. Hey, pour vrai, là, plus c'est dans l'air, c'est dehors. Et donc, j'ai trouvé ça drôle de recevoir ce courriel-là cette semaine parce que la prémisse, c'était ça. Puis c'était de dire, hey, au-delà de la compagnie québécoise, le but, c'est même pas tant de pousser la business, c'est vraiment de parler... Ce gars-là, Samuel, a passé 3 ans à développer une nouvelle approche pour prévenir les odeurs corporelles. Fait qu'il s'est intéressé, bon oui, à